France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le sujet est débattu depuis des années. L'Allemagne, l'Irlande, l'Italie nous ont largement devancés. En France, on a fini par dire oui, oui au cannabis thérapeutique. C'était en décembre 2019. Depuis plus rien, au point que médecins, associations, patients s'impatientent, une cinquantaine d'entre eux ont signé une tribune sur le site du Parisien ce matin, dont le président du comité scientifique sur le cannabis de l'Agence du médicament, qu'on entendra dans un instant. C'est dire l'inquiétude, car depuis décembre 2019, rien, ça veut dire pas de décret, et ça veut dire pas de crédit non plus. 0 euro, donc pas d'expérimentation, comme ça devait être le cas, 3000 places sur 2 ans, et autant de patients souffrant de douleurs réfractaires, de formes d'épilepsie sévère et pharmacorésistante, de cancer en phase terminale, de douleurs liées aux scléroses en plaques et autres pathologies liées au système nerveux central. Tout cela, donc, tous ces gens attendent. On est loin, et on est bien d'accord là-dessus, on est loin de délivrer des joints pour calmer des mal de tête. On parle d'huile, on parle de capsules, on parle de soulager des douleurs réfractaires aux antidouleurs habituelles. La réponse à cette inaction, c'est le Covid et l'ensemble du système de santé tourné vers d'autres priorité, c'est ce que répond le gouvernement, mais pour un décret, le lancement d'une expérimentation, au fond, est-ce un argument raisonnable? Nous poserons la question, d'autant qu'Olivier Véran a été l'un des ardents défenseurs du cannabis thérapeutique. Qu'est-ce qui bloque? Faut-il encore expliquer pour fermer la porte aux craintes d'une légalisation ensuite d'un cannabis récréatif? Nous parlerons, grâce à vous, de nos rapports peut-être aussi à la douleur, nos soins liés à la douleur qui nécessitent peut-être d'être remis sur la table, y a-t-il toujours, et décidément, une frilosité bien française à développer le cannabis thérapeutique. On en parle ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Laetitia, c'est avec vous qu'on commence ce soir. Soyez la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir. Écoutez, quand j'entends ce que vous venez de dire, j'ai l'impression d'avoir des toutes petites douleurs. Moi, j'ai juste de l'endométriose. Je ne suis pas en fin de vie. Je n'ai pas une sclérose en plaques. J'ai des douleurs qui font des crises comme si j'étais en train d'accoucher. Et j'ai des douleurs neuropathiques. Et j'avais remarqué que quand je fumais un bon petit joint, ça me calmait. Et depuis qu'on peut trouver du CBD légalement en France, j'ai commencé et je dis moi, mais aussi d'autres femmes comme moi, parce que grâce aux réseaux sociaux, on se parle. On est toutes en train d'expérimenter avec le CBD. Il y a des choses qui marchent. Je suis pas sûre que ça marche vraiment directement sur la douleur, mais en tout cas, le fait que ça relaxe, ça fait aussi qu'on se rajoute pas de la douleur en étant contracté sur sa douleur. Et maintenant, j'en parle très librement. J'en parle autour de moi, j'en parle à mes parents, j'en ai parlé à mes médecins. Et les médecins, ils le notent et ils disent « Ah oui !» Sauf que nous, on expérimente, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas... on voudrait être encadré, quoi. On voudrait avoir des protocoles. Et moi, je refuse de prendre des médicaments comme des opiacés. Je vois pas pourquoi, quand on me dit qu'il y a des choses sur le marché, bah oui, mais moi, j'ai pas envie de prendre des opiacés. J'ai pas envie de prendre des antiépileptiques. J'ai pas envie de prendre des antidépresseurs parce que j'ai des douleurs neuropathiques.
Merci beaucoup, Laetitia, pour ce témoignage qui sera une bonne entrée en matière pour ce téléphone sonne pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Nicolas Autier est là. Bonsoir, monsieur Autier.
Bonsoir.
Vous êtes président du comité scientifique sur le cannabis médical à l'Agence du médicament. Bonsoir, Fabienne Lopez.
Bonsoir.
Vous avez couru. Merci
un
beaucoup. Vous avez couru pour arriver jusqu'à nous, présidente de l'association Principe Actif. Moi, je voudrais savoir ce qu'on peut répondre à Laetitia, d'abord, Nicolas Autier. Et pardon de le dire comme ça pour Laetitia, mais est-ce qu'elle rentre dans les cases de ce qu'est censé être l'aide apportée par le cannabis thérapeutique?
Alors, sur la valence qu'elle décrit comme douleur neuropathique, effectivement, elle rentrerait dans l'indication qui a été retenue. Puisque l'endométriose, les douleurs de l'endométriose, les douleurs non neuropathiques n'ont pas été retenues, pour l'instant en tout cas, donc elles pourraient rentrer. Ensuite, normalement, il faut avoir testé les produits indiqués en première et en deuxième intention. Les fameux antidépresseurs dont elle parlait et antiépileptiques.
Veut dire que l'idée, c'est si rien ne marche, alors on termine avec du cannabis thérapeutique. C'est comme ça que c'est pensé pour l'instant.
En tout cas, ce ne sera pas les produits utilisés en première intention, c'est sûr. Ils seront parfois utilisés en deuxième, troisième intention, parce que pour l'instant, le niveau de preuve n'était pas suffisant pour les positionner en première ligne.
Est-ce que ça veut dire, on va le dire comme ça, Fabienne Lopez, que si demain, on a fini, on va y venir, hein, la fameuse expérimentation, etc., et que Laetitia arrive chez son médecin et qu'elle lui dit « Moi, jusqu'à présent, un joint, ça me calmait, donc j'aimerais passer à une forme thérapeutique de cannabis », qu'est-ce que lui répond son médecin ?
Si c'est un médecin qui comprend sa situation, hein, parce que ça, c'est une, ça a son importance, oui, il peut accepter, mais en même temps, ce qu'il va lui dire, c'est ce que disait le Nicolas Autier à l'instant, c'est qu'il faudra qu'elle passe effectivement par les traitements qui sont déjà prescrits pour ce type de douleur ou pathologie, et ensuite seulement, si ça ne fonctionne pas sur elle, elle aura droit au cannabis thérapeutique. Non fumé sous forme de joint, si possible.
Bien sûr.
Mais la logique est celle-là, en tous les cas.
Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas Autier, le retard qui a été pris là, puisque l'expérimentation devait commencer au mois de septembre? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de calendrier, désormais?
Ah, mais ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai de plus en plus de difficultés à me prononcer, en fait, parce que tout dépendra effectivement de la publication du décret d'application de la loi votée le 24 décembre 2019. Il va nous falloir un peu de temps, une fois que le décret sera publié, pour finaliser la mise en place. On a beaucoup travaillé, y compris pendant le Covid, j'ai eu l'occasion de le signaler, même plus pendant le Covid, puisqu'on a on a découvert la visioconférence. Maintenant, effectivement, il nous reste une étape importante, qui est la question de la sélection des produits, de la publication du cahier des charges. Et donc, ça, sans décret, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que, effectivement, le décret qui était discuté déjà en mars, puis au début d'été, en juin, juillet, et maintenant promis en septembre, il est fortement attendu, parce que sinon, ça reportera beaucoup plus loin les premières inclusions.
Mais alors, est-ce que vous avez, parce qu'on a entendu la réponse d'Olivier Véran qui disait, attendez, on est passé par le Covid quand même, donc ça a été, disons que le système de santé publique était tourné vers autre chose. Est-ce que c'est un argument que vous entendez, ou est-ce que vous dites, attendez, pour signer un décret, le Covid a bon dos? En gros, donc est-ce que vous sentez une forme de frilosité quand même qui fait qu'on recule sur cette histoire de décret?
Je crois que ce décret n'est pas quelque chose de très complexe. Hein. Il vise à reprendre les principaux éléments qui ont été acceptés à l'issue des différents comités scientifiques et acceptés par l'Agence du médicament. Donc c'est pas que, probablement qu'il y a eu quelques arbitrages, et c'était nécessaire, interministériel, parce qu'on parle quand même du cannabis, qui actuellement est totalement illicite en France, et probablement des arbitrages administratifs, une lenteur administrative accentuée par le Covid peut-être. Mais c'est pas un processus forcément très long, et quoi qu'il en soit, c'est pas parce qu'il y a le Covid en France qu'il faut arrêter de prendre en charge correctement tous les patients qui souffrent d'autres maladies chroniques, qui souffraient avant, qui vont souffrir pendant et qui vous souffriront encore, malheureusement, pendant de nombreuses années, une fois qu'on aura réglé peut-être le problème du Covid.
Fabienne Lopez, là-dessus, vous, du côté du côté associatif, donc de l'association Principe Actif, est-ce que vous avez l'impression que le Covid a bon dos? Est-ce qu'on est toujours dans des freins et des frilosités, ou pas? Est-ce que c'est ça votre crainte?
Je pense que le Covid a bon dos, effectivement. Que cette expérimentation a commencé, enfin, en tous les cas, les prémices, il y a 2 ans déjà. Donc, je reste quand même un petit peu interloquée sur le fait qu'ils ont eu 2 ans pour voter. Personne n'a rien fait, personne n'a bougé. Il faut quand même que Nicolas Autier sorte une tribune, aujourd'hui d'ailleurs, dans les journaux, prévienne les médias, pour qu'on réagisse et qu'on se réveille un petit peu à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas que ce décret aussi, il y a d'autres choses qu'il faut changer. Et entre autres, il y a cette histoire de loi, et qui fait que le cannabis est interdit en France. Et donc la question se pose pour les patients qui seront interpellés, par exemple, avec du cannabis à usage thérapeutique sur eux. La réponse, on ne l'a toujours pas, en tous les cas.
Théoriquement, ils ne sont pas censés être arrêtés avec un joint qu'ils ont roulé, mais on parle de gélules, on parle de capsules, on parle d'huile.
De sommité florale aussi. Donc on parle bien de cannabis, donc d'herbe. Et ça, on se fait interpeller quand même. Donc, ces gens qui seront interpellés...
D'autant que maintenant, ça coûte 200 euros. On en parlait ici même.
Voilà. On pourra en parler, effectivement, parce que c'est un double discours aussi. C'est compliqué, là. On parle d'une possibilité de légalisation de l'usage thérapeutique. Et en même temps, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui n'arrête pas de couvrir tous les médias, la presse, les télés, qui fait énormément de sorties sur on va lutter contre la drogue et on va lutter contre les usagers.
Mais ça veut dire, juste avant de revenir au standard, Nicolas Autier, est-ce qu'il faut redire, et y compris jusqu'en haut des plus hautes sphères, que cannabis thérapeutique et cannabis récréatif sont deux choses extrêmement différentes et que surtout l'un n'entraîne pas forcément l'autre, puisque les pays qui ont légalisé le cannabis thérapeutique n'ont pas forcément légalisé le cannabis récréatif, on est d'accord avec ça?
Bien entendu, c'est une vision trop simpliste de parler de cannabis récréatif d'un côté, d'ailleurs, récréatif est un terme discutable, et thérapeutique de l'autre. On parle d'une même plante au départ, mais ensuite, ce n'est plus tout la même chose. Mmh. En fonction de comment on va cultiver cette plante, en fonction des extraits qu'on va réaliser, en fonction de la finalité d'usage, de son mode de consommation, ce n'est plus la même chose. D'un côté, effectivement, il y a des risques importants, et puis des effets différents, recherchés, qui peuvent être discutés, mais qui existent. Et puis de l'autre côté, il y a un médicament, un produit au standard pharmaceutique, qui va être prescrit comme un stupéfiant, délivré par des pharmaciens, surveillé. Ce n'est plus du tout la même chose. C'est comme si on comparait l'héroïne et la morphine.
Olivier nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir Olivier, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Eh bien, du coup, c'est un témoignage, mais je crains que ce soit le témoignage de tous les usagers. Donc, je suis consommateur de cannabis thérapeutique. J'ai une maladie, une adrénomyéloneuropathie, une sorte de sclérose en plaques. Et alors, moi, j'ai commencé par les antalgiques habituels, le tramadol, la morphine. Et franchement, ça me fait rigoler quand on dit qu'il faut que ça soit en deuxième ou en troisième intention, parce que les effets secondaires du tramadol sont pires que la douleurs eux-mêmes. Donc j'ai découvert le cannabis un peu par hasard. J'en entendais parler, je me dis bah tiens, je vais essayer. Bah depuis je me mets à cultiver moi-même justement pour sortir du marché noir, parce que hier soir l'intervenant de Lofast nous accusait de financer le terrorisme. Et ben mais sauf que le problème c'est qu'on est là selon moi dans un refus de soins. C'est-à-dire qu'on a un produit qui marche, on a les études scientifiques existent. D'ailleurs, l'expérimentation thérapeutique qui va être menée ne va pas être menée sur sur le retour antialgique des produits, mais sur le mode de délivrance seulement. Enfin, donc du coup, voilà, je me retrouve dans une situation complètement inextricable. Avec
dans l'illégalité,
un ministre qui dit que je suis un mauvais citoyen, c'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, alors que selon moi, je suis en état de nécessité. L'état de nécessité, c'est un article du Code pénal qui dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un bien nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien.
Merci pour votre... Pardon Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose, pardonnez-moi ?
Non, ah bah je sais que doit y avoir beaucoup de personnes qui
absolument,
veulent
vous êtes nombreux. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Il y en a effectivement beaucoup, des témoignages comme celui d'Olivier, Fabienne Lopez, et des gens qui disent bah, du coup je le cultive moi-même. On peut faire beaucoup de bêtises en cultivant soi-même aussi, et c'est aussi en partie l'une des raisons pour lesquelles peut-être que il serait plus utile d'avoir effectivement du cannabis thérapeutique. Je pense aux doses, je pense à la fréquence, je pense à toutes ces choses-là.
Non, moi je m'insurge contre ces arguments. Les gens qui passent à l'autoproduction, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand on est passé au CSST, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on parle de cannabis thérapeutique en France. Ça fait 20 ans qu'on ne nous entend pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Les gens n'ont pas attendu, on n'attend pas dans ces cas-là. Les gens qui souffrent, ils passent à l'action. Passer à l'action, c'est aller sur Internet... tapez cannabis, autoproduction, vous aurez tous les conseils. Vous avez aussi des tas de bouquins qui sortent avec les variétés qui correspondent aux pathologies, ce qui n'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous trouvez des tas de publications avec telle variété pour telle pathologie. Après, les formes, bien évidemment que fumer, c'est la pire des formes. À partir du moment où en plus on est malade, bon, c'est vraiment la pire des formes. Mais l'autoproduction en soi, moi je la préconise aussi. Nous, à Principe Actif, on demande l'accès à tous les traitements et à l'autoproduction. Parce que les gens qui autoproduisent ont réussi à trouver des variétés qui leur correspondent.
Et donc aussi des dosages qui leur correspondent et des...
Le dosage, c'est vous-même qui le... qu'il utilisait, qui savait à peu près ce qu'il vous faut comme dosage.
Alors, j'allais vous parler du risque d'accoutumance. En même temps, quand j'entends Olivier qui nous parle de tramadol, je peux comprendre qu'il peut y avoir, que ça peut le faire rire.
Entre l'addiction au tramadol, aux opiacés et l'addiction au cannabis, il y a quand même, un grand écart à faire. Hein. Ça n'est absolument pas la même chose. Et donc, les gens ne sont pas idiots non plus. Je crois qu'on vit dans un monde où on veut de plus en plus assister les gens. Les gens malades n'ont pas intérêt non plus à se rendre beaucoup plus malades ou à prendre des risques avec le cannabis qu'ils utilisent.
Nicolas Autier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on va regarder sur les fameux 3000 essais, enfin les 3000... je ne sais pas comment on appelle ça, mais la manière dont on va le tester, les 3000 patients, est-ce que c'est 3000 patients ?
Alors c'est 3000 places en fait.
C'est 3000 places.
On a réussi à négocier plutôt 3000 places. Ça nous permettra effectivement, si les patients ne supportent pas les effets indésirables, parce qu'il y en aura, ou bien si les patients n'ont pas d'efficacité, ils pourront quitter effectivement l'expérimentation et cette place se libérera pour un autre patient.
D'accord.
Donc ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on va évaluer ? L'objectif principal, ça a été dit par l'auditeur, c'est d'évaluer le circuit de prescription et de dispensation. Ce n'est pas d'évaluer le bénéfice-risque, puisque ça, on l'a fait sur littérature scientifique. C'est ce qu'a fait le premier comité scientifique. Bien sûr, on souhaite rajouter dans l'évaluation, au niveau des structures spécialisées hospitalières, à différents temps de l'expérimentation, des évaluations scientifiques avec différentes échelles pour quand même avoir cette expérience en France et avoir des données complémentaires de la littérature. Mais l'objectif principal, il est uniquement de valider un processus de prescription et de dispensation d'un médicament qui sera considéré comme stupéfiant, évidemment. Donc, en fait, on redécouvre pas grand-chose. Il y a une forme de prétexte, un peu. Il fallait bien justifier la mise en place d'une expérimentation des politiques publiques. Donc, on a proposé cet objectif-là assez simple, qui normalement ne doit pas échouer, puisque on le fait déjà avec plein d'autres médicaments stupéfiants, la morphine, par exemple. Donc, voilà ce que l'on va faire.
Est-ce que vous savez, j'imagine, à terme, de combien de patients on parle, combien de personnes pourraient être directement concernées et donc candidats pour ce genre de médecine ?
Alors, des personnes candidates, il y en a plusieurs centaines de milliers potentiels candidates. Après, des personnes qui vont en tirer un bénéfice et qui vont garder dans la durée ces traitements, c'est probablement un peu moins, peut-être quelques dizaines de milliers. Si on compare avec d'autres pays, par exemple, prenons l'Allemagne à côté, on est plutôt entre 80 et 100 000 personnes qui sont traitées en file active annuellement. Donc probablement qu'on sera dans les mêmes ordres de grandeur en France.
J'ai cité tout à l'heure le type de pathologie qui pouvait répondre effectivement à ce genre de traitement. Est-ce que nos voisins sont plus ont ouvert les vannes un peu plus ou au contraire un peu moins? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce qu'on est tous plus ou moins autour des mêmes choses, des mêmes pathologies, des mêmes résultats sur certaines pathologies?
Alors les 5 indications qu'on a retenues sont effectivement retenues dans la majorité des pays qui ont ouvert, légalisé ou qui expérimentent comme l'Angleterre. Le cannabis médical. Mais d'autres pays, comme l'Allemagne, j'y reviens, eux sont beaucoup plus larges, par exemple. Ils n'ont pas fait de liste. Ils n'ont pas établi de liste, et c'est en fonction de la compétence du praticien, du médecin, de faire le choix de prescrire ou non.
Vous, chez Principe Actif, Fabienne Lopez, est-ce que vous dites qu'il faut écarter, ouvrir les vannes, comme je disais tout à l'heure, ou est-ce que dans le périmètre qu'on s'est fixé, nous, en France, on peut commencer à travailler sérieusement ?
Non, moi, je pense qu'il faut ouvrir les vannes. Hein. C'est un peu ce qui nous oppose. Dans nos discussions, mais ouvrir les vannes, oui, bien sûr, parce que on l'a vu pour les autres pays qui ont permis donc cet usage thérapeutique. On n'est pas sur des critères, on est sur des pathologies et on est aussi sur un usage simplement médical. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, bon, je sais que ça fait hurler pas mal de professionnels de santé, mais aux États-Unis, vous n'avez pas de critères, vous n'avez pas de liste de pathologies. En Allemagne, c'est 40 pathologies. Donc nous, ce dont on s'aperçoit maintenant en France, c'est que, et à Principe Actif, c'est qu'on a des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, qui normalement devraient avoir accès, donc, ou en tous les cas une place dans cette expérimentation, et qui ne peuvent pas parce que leur médecin considère que le cannabis est une drogue, que finalement c'est peut-être pas vraiment une sclérose en plaques, mais plutôt une myopathie. Donc pour la myopathie, c'est pas dans les critères. Vous voyez, il y a plein de soucis comme ça que nous aurons à régler, nous, patients, avec nos médecins. Bah, donc il est là un petit peu le souci.
Nicolas Autier, allez-y.
Juste pour compléter ce que dit Fabienne Lopez, c'est une première liste d'indications. C'est 5 grandes situations cliniques. Mais c'est une liste qui a vocation à évoluer en fonction des données de la littérature scientifique. Et puis, l'idée était probablement aussi de, dans le cadre d'une expérimentation, de pas trop se disperser, ne serait-ce que pour la faisabilité du projet. Mais évidemment que ça évoluera.
Et on a ce témoignage de Laure, justement, qui nous arrive sur franceinter.fr et qui dit « J'ai mis ma grand-mère sous CBD fin juin sous forme d'huile, car elle prenait trop d'anti-inflammatoires et de médicaments pour dormir. Elle se sent beaucoup mieux, ne subit plus les effets secondaires de ces médicaments. Et je trouve dommage que ce ne soit pas proposé. » Elle ajoute que sa meilleure amie en prend également pour ses règles douloureuses et qu'elle a réussi à supprimer donc le paracétamol. Est-ce qu'on peut redire la différence entre le CBD et le THC, c'est-à-dire ce qui est du domaine du psychotrope et ce qui n'est pas du domaine du psychotrope, Fabienne Lopez?
Le CBD n'est pas psychotrope. Par contre, le THC l'est, oui, bien sûr.
Et du coup, la différence, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, la différence, y compris de ce point de vue-là, entre ce qui se retrouve sous forme de médicaments, là sous forme d'huile par exemple pour la grand-mère de Laure, et ce dont on parlait hier ici même, ce qu'on fume en revanche chez soi ou ailleurs.
Le CBD, c'est un des principes actifs du cannabis. Bon, il y a aussi en ce moment beaucoup de querelles et de discussions par rapport à sa possibilité de prescription ou pas d'ailleurs, et à sa légalité. Hein. On en entend beaucoup parler en ce moment, c'est allé jusqu'à la Cour européenne. Donc on ne sait pas trop quel va être l'avenir du CBD en France. Mais effectivement, le CBD, c'est du confort. Ça peut vraiment aider, soulager pour... je dirais les petites douleurs, les problèmes articulaires, pas très douloureux non plus. Je veux dire, on n'entre pas dans les pathologies lourdes qui handicapent réellement la vie des gens au quotidien. Avec le CBD, on peut soigner plein de petites choses. Ça détend, ça relaxe. Donc vous avez un petit peu mal au dos, vous prenez du CBD, ça peut être efficace.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Michel. Vous aviez posé votre téléphone, vous avez le droit. On vous écoute, allez-y.
Mon appel.
Je vous en prie.
Je vous appelle parce que mon mari était atteint d'un cancer de la vessie en 2015. Il ne supportait pas la morphine. On lui a administré du tramadol qu'il ne supportait pas non plus. Donc des antiantalgiques. Inutile de vous dire que la souffrance était extrême. Et quand j'ai parlé du cannabis thérapeutique au médecin, elle a levé les bras au ciel en disant que c'était interdit en France. Mais par contre, j'aurais pu m'en procurer par moi-même. Donc, d'où mon hésitation, ma crainte, je ne savais pas à qui m'adresser. Voilà. Je voulais témoigner dans ce sens. D'autre part, je fais partie de l'association ADMD qui aide, qui veut que...
Il y a des gens à mourir dans la dignité. On est sur un autre sujet, mais je vous en prie, Michel.
La dignité. Et je trouve qu'à ce niveau-là non plus, la France est un pays d'hypocrites.
Alors c'est un autre sujet, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'il y a toujours beaucoup d'actualités autour de ces sujets-là également, surtout en ce moment. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas Michel. C'est vrai que c'est la seule réponse, au fond, est-ce la seule réponse légale que peut donner un médecin pour l'instant, Nicolas Autier? Soit vous vous en procurez vous-même, soit je peux rien faire pour vous. Est-ce que c'est la seule chose qu'on peut dire en fait?
Mais en tout cas actuellement, comme c'est interdit, quelle que soit la forme, hein, même si vous revenez avec une huile au standard pharmaceutique dans un autre pays, c'est interdit. Donc moi j'ai des patients qui en consomment, qui en produisent, je les accompagne dans leur consommation, pour essayer de mettre du sens avec les autres traitements qui sont associés, pour réduire des risques, pour insister sur effectivement la nécessité de ne pas fumer, vaporiser, etc. Donc on accompagne, c'est notre rôle d'accompagner les patients dans ce sens-là, même si une prédit est interdit. Nous, on se base pas en médecine sur l'interdit du produit. Normalement, en tout cas, hein, c'est le bénéfice-risque qui prime. Mais effectivement, c'est délicat de leur dire, vous pouvez vous en procurer, mais attention, dès que vous franchissez la frontière et que vous rentrez en France, vous êtes dans l'illégalité.
Et justement, tiens, sur le rapport avec le médecin, voici Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, Jean-Louis.
Merci. Non, je voulais juste apporter un petit témoignage qui était assez marrant, on va dire. Où ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment une fois d'être confronté à un médecin. Voilà, il me demande si je fume. Je lui dis non, je ne fume pas, je ne veux pas du cannabis pour mes problèmes de dos. Ça me soulage. Mais il me dit, ah bon, très intéressé, ah bon, alors, quelle fréquence, ou quoi, quand, comment, ça vous soulage comment, vous en procurez-vous, quelle durée, etc. Donc, pour plaisanter, je lui demande s'il fait pas des heures sup pour la douane, et il me dit, non, mais très très intéressant, parce que nous, on n'a pas le droit, j'ai pas d'études, je sais pas trop comment ça marche, mais je sais que dans des cas comme les vôtres, ça marche. Et là, on se dit, ah bon, oui, parce qu'en fait, c'est moi le patient, vous le médecin, j'aurais plutôt tendance à dire que les rôles pourrait s'inverser. Donc voilà, on apprend des choses aux médecins, c'est assez marrant.
En l'occurrence, sur ce genre de choses, merci beaucoup Jean-Louis, Fabienne Lopez. Oui, j'imagine que des conversations comme celle de Jean-Louis avec son médecin, il y en a eu plus d'une, en fait.
Oui, elles sont très nombreuses.
Et eux savent effectivement comment ça fonctionne. Vous avez peut-être beaucoup de choses à apprendre, Nicolas Autier.
Oui, c'est évident qu'en médecine, on a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et sur le cannabis médical, on a appris beaucoup de choses pendant ces travaux, pendant 2 années.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il viendra lorsque tout sera en place, c'est-à-dire on se le procurera comment, il sera fabriqué comment et où? Est-ce qu'on a ces réponses?
Alors,
la fameuse huile, les capsules, effectivement, oui. Fabriquées où et comment?
Actuellement, en France, on ne peut pas produire du cannabis médical, au sens où on ne peut pas le cultiver, on n'a pas l'autorisation pour ça. C'est pas possible. Donc, si on veut débuter l'expérimentation sans trop tarder, idéalement au premier trimestre 2021, eh bien, on va probablement être obligé de faire un appel d'offres auquel répondront des producteurs étrangers. Européens, pourquoi pas, mais étrangers. Et peut-être que pendant le temps de l'expérimentation, des filières françaises se développeront, évidemment. Mais ce sera des produits qui seront certifiés aux standards pharmaceutiques, donc qui respecteront les normes de fabrication des médicaments.
Mais j'avais cru comprendre, Fabienne Lopez, parce qu'on avait déjà évoqué ce sujet au téléphone sonne, qu'il y avait même des endroits qui étaient volontaires en France pour faire ce genre de production et pour pouvoir effectivement ramener la production au plus près.
Ah oui, ça a commencé par le département de la Creuse.
C'est ça, c'était ce que
j'avais
en tête.
Ensuite, la Bretagne a suivi, ensuite une partie du Sud-Ouest. Donc on voit qu'il y a énormément de régions où il y avait des régions chanvrières qui, pour caser leurs chanvres, et d'ailleurs à juste titre, parce qu'on a pris énormément de retard sur le marché international par rapport aux chanvres légales, donc eux ont eu envie de se reconvertir en entendant parler surtout de l'expérimentation. C'est la première idée qui leur est venue, et c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Mais le problème, c'est que même les chanvriers en France qui ont demandé donc devant la mission parlementaire et au gouvernement de pouvoir passer à la production n'ont pas encore les autorisations. Donc, on est aux prémices de quelque chose qui dure quand même un petit peu depuis 2 ans, où des chanvriers attendent, des patients attendent, des professeurs attendent des autorisations, et rien ne vient. C'est terrifiant quand même, la lenteur.
Nicolas Autier, une question de Frédéric sur franceinter.fr qui vous demande si les parkinsoniens sont concernés par le cannabis médical. Est-ce que ça rentre dans les...
Non, enfin, en tout cas, les symptômes de la maladie de Parkinson, typiques de la maladie de Parkinson, ne sont pas concernés actuellement. Les spécialistes de la maladie de Parkinson ont été auditionnés par le comité scientifique et avaient dit qu'en fonction de la littérature, il n'était pas pertinent pour l'instant de traiter ça. Néanmoins, s'ils ont une douleur neuropathique, s'ils ont une autre complication, ils pourront accéder à ces, mais pas pour la maladie de Parkinson elle-même.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Allez-y.
Voilà, je voulais témoigner. Moi, je souffre d'une sclérose en plaques depuis 25 ans. Les douleurs neuropathiques ont été très peu présentes au démarrage de la maladie, mais elles le sont de plus en plus. À un moment, elles étaient présentes, elles ont toujours été intermittentes, c'est-à-dire qu'elles, voilà, c'est pas régulier. Et quand j'en ai fait état au neurologue qui me suit, la solution qu'il me proposait, c'était de prendre un traitement, mais au long cours, c'est-à-dire type Lyrica ou Neurontin, qui sont vraiment des traitements classiques pour des neuropathies. Mais c'est tous les jours, on prend quelque chose tous les jours. Et comme ces douleurs étaient intermittentes, bon, je me suis dit, ben, tant pis, je vais pas faire ça. Et ces 2 ou 3 dernières années, les douleurs sont devenues un peu plus présentes et surtout plus intenses, mais toujours intermittentes. Et j'ai profité du départ de ma fille pour la Suisse pour lui demander 1-2 fois de me ramener un flacon, en sachant que elle courait un risque. Je n'étais pas complètement inconsciente, mais voilà, je voulais quand même tester. Et avec aussi, et ça je pense que c'est important de le signifier aussi, c'est avec aussi la crainte de savoir si, alors bon, en Suisse on sait que les productions qui sont accessibles en pharmacie, elles sont voilà, elles sont safe entre guillemets, puisque ce sont des huiles, il y a différents types de concentration, etc., etc. Mais bon, avec un petit peu cette appréhension de se dire, bon, je vais quand même prendre un truc qui est pas sur le marché.
C'est un petit côté sous le comptoir, en fait.
Voilà, et puis un risque, enfin, quand on a des problèmes de santé chronique au long cours, on n'a pas non plus envie de s'embarquer dans quelque chose où on prend un risque supplémentaire. Bon, là, les douleurs étaient suffisamment importantes pour que j'accepte de prendre ce risque-là. Donc, j'ai testé, je me suis renseignée sur Internet. Alors, sur Internet, on a accès à une somme d'informations, de témoignages, enfin bon, c'est hallucinant. Ce qui rejoint ce que disent vos invités et puis certains intervenants sur l'hypocrisie ambiante sur ce qui se passe par rapport au cannabis thérapeutique. Et donc j'ai testé, je sais que moi il me faut à peu près entre 4 et 5 gouttes que je prends en sublingué, un dosage à 10%, et ça me soulage en un quart d'heure, c'est-à-dire que là où je ne peux pas dormir parce que j'ai trop mal, là je dors, et c'est pas le produit qui me fait dormir, c'est parce que je n'ai plus mal que je dors. Vous voyez, donc c'est pareil, vous voyez, dans les termes qui sont utilisés, là j'entendais la jeune femme qui en donnait à sa grand-mère, alors elle dort, etc. Attention, parce qu'il faut pas non plus entretenir cette confusion entre le psychotrope et voilà, on fume un joint puis on se sent un peu KO et puis voilà, d'un seul coup on est tout flagada, et le fait que quand on supprime la douleur, ah bah oui, on n'est plus détendu. Enfin voilà, c'est quand même ça un peu le souci. Alors après, ce que je tiens à signaler, c'est que moi ça me coûte 60 euros pour un flacon, je l'ai sous les yeux, de 10 millilitres. Donc autant vous dire que c'est pas un nombre de gouttes à l'infini, et que bah voilà, là je sais qu'il faut que je me réapprovisionne. Je le commande sur Internet maintenant, puisque j'ai testé, mais je vais pas non plus faire courir des risques inutiles à ma fille.
Et vous savez d'où il arrive d'ailleurs, ce que vous commandez sur Internet ou pas?
Moi ce que j'ai vu, c'est que sur le colis, ça passe par un pays de l'Est. Alors je sais pas si c'est la Bulgarie ou ce que je disais à la personne que j'ai eu au téléphone. Bon, enfin en tout cas Europe de l'Est. Je suis pas du tout sûre que ce soit produit sur place. Je sais que le site sur lequel je vais est un site dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, donc qui offre une certaine garantie, mais ça donne quand même l'impression non seulement de pas être une citoyenne très clean, donc ça c'est ce que disait aussi un de vos auditeurs, et puis d'être dans quelque chose où on est quand même toujours dans ce questionnement, même si on constate très clairement la suppression ou la grande diminution de la douleur. On se demande si on fait toujours bien, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose de... On aimerait bien avoir un blanc-seing médical.
Merci beaucoup, Sandrine, vraiment, pour votre témoignage. Le blanc-seing médical, effectivement, pour l'instant, il a du mal à venir, mais autour de la table aussi, ils aimeraient le blanc-seing médical. Est-ce que ça veut dire que, de ce que raconte Sandrine, est-ce que ça veut dire qu'en Suisse, par exemple, c'est sans ordonnance? On peut le demander dans une pharmacie? Vous savez ça ou pas?
Alors ça dépend des produits, mais certains produits sont accessibles avec ordonnance. Ça dépend de la composition des produits dont on parle. C'est du THC, s'il n'y a pas de THC.
Vous savez ça, Fabienne Lopez. Est-ce que effectivement, Sandrine le dit très bien, elle s'est renseignée, il y a toute une littérature sur le net, etc. Il faut être vigilant sur ce qu'on commande, évidemment, j'imagine.
Ah oui, il faut être vigilant, il faut se renseigner sur les sites. Mais ça, c'est facile aussi, d'avoir des renseignements. L'accès à Internet a changé nos vies, totalement à ce niveau-là. Donc, ça vous permet aussi de savoir d'où provient le produit. Elle peut même savoir, si elle cherche un peu, s'il a bien été planté en Bulgarie ou en Hongrie ou je ne sais où, et dans quelles conditions.
Est-ce que ça veut dire aussi que ce que raconte Sandrine et que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi que elle ne prend ce produit que de manière intermittente en fonction de ses douleurs, Nicolas Autier. Est-ce que ça veut dire que oui, ça permet, selon vous, d'enlever les produits au long cours qu'on est obligé de prendre là pour le cas d'une sclérose en plaques, c'est l'histoire d'une vie. Est-ce que effectivement c'est quelque chose qu'on imagine dans le traitement comme de manière ponctuelle au moment de la douleur en fait?
Pour certains patients, ça pourra se concevoir comme ça, sur ce modèle-là, effectivement. Certains patients n'auront pas besoin forcément d'un traitement de fond. Mais c'est vrai que très souvent, les traitements de douleurs chroniques, puisqu'on parle de douleurs chroniques, sont développés avec un modèle de prise quotidien. Alors qu'on pourrait imaginer, on le fait parfois un peu avec les opioïdes, c'est mieux comme ça d'ailleurs, avec des prises ponctuelles.
En tout cas, beaucoup de questions qui nous prouvent bien jusqu'à quel point l'impatience qui est la vôtre, celle des médecins notamment, ou des associations, ou celle des patients, est aussi l'interrogation de beaucoup de nos auditeurs. Merci beaucoup de votre présence ce soir dans le téléphone sonne. Et vous avez 8 secondes si vous voulez vraiment dire quelque chose.
Bon, la mission parlementaire très rend son rapport le 16 septembre. Voilà. Donc on en saura plus aussi à ce niveau-là.
Et ça se suit à ce moment-là. Merci, monsieur.